Laudetur Jesus Christus.
L'évêque de Rome de retour dans sa ville. François revient de 3 jours de voyage en Irak, voyage inédit et historique à plusieurs égards sur cette terre rudoyée par la guerre et la violence djihadiste. La venue du Saint-Père en pèlerin de paix a constitué une parenthèse lumineuse d'espoir. Le cardinal Sacco en est sûr, ce voyage portera de beaux fruits pour son pays, nous l'entendrons. Toujours dans la région, cette journée de la colère au Liban, en colère des habitants excédés par la situation dramatique de leur pays, entre paralysie politique et désastre économique, nous irons à Beyrouth. Colère aussi en Birmanie, où les principaux syndicats ont appelé à un coup d'arrêt de l'économie. Tout est fermé aujourd'hui. Seul moyen trouvé pour faire plier la junte au pouvoir qui accentue sa répression à l'égard des manifestants. Et puis après des mois de confinement doublé d'une campagne de vaccination massive, la Grande-Bretagne initie une réouverture prudente par étapes. La première aujourd'hui, le retour des élèves à l'école.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. L'avion du pape a atterri il y a environ 40 minutes sur le tarmac de l'aéroport romain de Ciampino. C'est ainsi que se termine ce 33e voyage apostolique qu'il a mené en Irak, accomplissant le rêve de Saint Jean-Paul II sur les terres d'Abraham et des communautés chrétiennes nées de la prédication de Saint Thomas. 3 jours exceptionnels donc à Bagdad, Najaf, Our, Mossoul, Karakoche et Erbil, où les mots de paix, de fraternité, de pardon et d'espérance ont résonné dans le cœur de tous les Irakiens. Et surtout des chrétiens à qui cette venue du souverain pontife donne un élan nouveau pour reconstruire et témoigner. Le cardinal Louis Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens et cheville ouvrière de cette visite, en dresse un premier bilan pour nous.
C'est une visite extraordinaire. Tous les Irakiens l'ont attendu. Puis quand le pape est allé ici et là, les gens sautaient de joie, musulmans et chrétiens, avec un grand respect, mais aussi avec un esprit très ouvert. Et je crois que cette visite aura une influence sur la mentalité et la culture irakienne, approfondira le respect des uns pour les autres, le respect de la religion, le respect de la personne. Et maintenant, ils ont réalisé que tous ces conflits, ces guerres-là sont absurdes. Ce n'est pas pour le bien de l'homme. Et les discours du pape étaient extraordinaires. Ils ont touché le cœur de la population musulmane et chrétienne. Nous sommes allés au palais du président. Un grand cheikh musulman sunnite m'a dit « Je voudrais aller baiser la main du pape devant tous pour lui montrer mon respect et mon amour. » D'autres ont beaucoup exprimé leur respect et leur admiration pour cette personne très simple, qui est proche des gens qui cherchent le bien commun, le respect de l'humanité, la paix, le dialogue, la stabilité. Cette visite sera inoubliable. Tous nous sommes marqués par cette visite-là.
Un voyage salué ce matin par le président irakien Bahram Saleh part d'une visite inoubliable lui aussi. Un signe d'amour et de paix qui restera dans le cœur de tous ses compatriotes. Réaction également de l'Iran voisin qui loue un déplacement bon et constructif. Et en cette journée internationale des femmes, ce 8 mars, le pape rend hommage justement aux Irakiennes. Je voudrais dire merci de tout cœur à toutes les femmes, particulièrement celles de l'Irak, des femmes courageuses qui continuent à donner vie malgré les exactions et les blessures. Que les femmes soient respectées et protégées, que leur soit donnée attention et opportunité, a publié ce matin le compte Twitter Pontifex. Le pape qui s'est prêté comme de coutume au jeu des questions-réponses avec les journalistes qui l'ont accompagné en Irak. Les détails de cette conférence de presse seront à retrouver dans notre édition de 18h ainsi que sur vaticannews.va. Non loin de l'Irak, le Liban, pays également cher au cœur du pape François, qui vit ce lundi comme une journée de la colère. Impasse politique, marasme économique et écroulement de la monnaie, les Libanais n'en peuvent plus. Les axes principaux du pays sont bloqués depuis ce matin. On retrouve Paul Ralifé à Beyrouth.
Du nord au sud, en passant par Beyrouth et la plaine orientale de la Beka, la rue libanaise bouillonne. Des groupes de manifestants en colère ont coupé des routes à l'aide de pneus enflammés, de bennes à ordures ou de blocs de pierre pour protester contre l'aggravation de la crise économique. La livre libanaise a poursuivi sa chute vertigineuse, battant de nouveaux records de baisse face au dollar, balayant le pouvoir d'achat des Libanais. L'envolée des prix se traduit par des empoignades violentes dans les supermarchés où les clients se disputent les denrées subventionnées moins chères que les autres produits. aujourd'hui. Pour la première fois depuis l'éclatement du mouvement de contestation en octobre 2019, les troubles ont gagné les régions à majorité chiite. Des jeunes en colère ont bloqué des routes non loin de la banlieue sud de Beyrouth, un fief du Hezbollah. Dans le nord du Liban, des échauffourées ont éclaté à l'entrée sud de Tripoli entre des manifestants qui bloquaient des routes et des militaires. Samedi, le premier ministre démissionnaire Hassan Diab a affirmé que le Liban est au bord de l'explosion. Une mise en garde qui intervient alors que les divergences entre les forces politiques empêchent depuis 7 mois la formation d'un nouveau gouvernement. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Et hier, le cardinal Béchar Araï a de nouveau taclé les autorités libanaises. Le patriarche maronite les juge incapables de répondre aux défis mortels qui se présentent au pays. La tension est aussi à son comble au Sénégal, qui a connu 3 jours d'émeute. Tout est parti de l'arrestation mercredi d'Ousmane Sonko, cette figure de l'opposition, candidat à l'élection présidentielle de 2019 et pressenti pour concourir à celle de 2024, est accusé de viol présumé, mais ses partisans crient au complot et pointent la responsabilité du président Macky Sall. Ils appellent à des manifestations ce lundi. La capitale Dakar a été placée sous très haute sécurité. Colère au Sénégal, au Liban, colère également en Birmanie, traversée par des manifestations et une grève générale. La population, les syndicats, les minorités ethniques, ils se mobilisent tous aujourd'hui pour dire non à la junte. L'objectif est d'affecter l'économie pour faire plier les militaires et redonner le pouvoir aux civils. Les détails avec Xavier Sartre.
Fonctionnaires, agriculteurs, salariés du privé, syndicalistes, tous rassemblés aujourd'hui à travers le pays pour appeler les militaires à rendre le pouvoir. Banques, commerces et usines sont fermées, répondant à l'appel des syndicats d'intensifier la grève pour étouffer l'économie. C'est la stratégie choisie par les opposants à la junte pour faire pression sur elle. Les minorités ethniques, ennemies de l'armée depuis des dizaines d'années, n'hésitent pas non plus à descendre dans la rue et à défier le nouveau pouvoir. La journée de dimanche a, elle, été marquée par de nombreuses manifestations, notamment un site Mandalay, la seconde ville du pays. Face à cette fronde de plus en plus déterminée, les militaires accentuent leur répression. Ils menacent de licenciement les fonctionnaires qui prendraient part à ces protestations. Ils utilisent surtout encore plus la force. Selon des témoignages concordants, 2 manifestants ont été tués par balle ce matin à Mitkina, dans le centre du pays. Les arrestations par dizaines des manifestants se poursuivent. Les militaires ont mené samedi et dimanche des raids nocturnes pour appréhender des responsables de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Preuve de la détermination de la junte, les opposants sont pourchassés jusque dans les hôpitaux, notamment à Rangoon.
Xavier Sartre. C'est un procès sensible qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis, celui de Derek Chauvin, ce policier accusé d'avoir tué George Floyd. Un meurtre qui avait suscité une onde de choc aux États-Unis et dans le monde, et surtout une mobilisation sans précédent contre le racisme. Les autorités craignent de nouvelles manifestations qui pourraient dégénérer, surtout en cas d'acquittement du prévenu. La pandémie de Covid et ces pays qui, après des mois de fermeture, allègent peu à peu leurs restrictions. C'est le cas d'Israël où les journaux parlaient ce matin d'un retour presque à la normale. En Grande-Bretagne, les écoles rouvrent leurs portes ce lundi, première étape d'un déconfinement après une campagne vaccinale massive. Cette réouverture est motivée par plusieurs facteurs, l'aggravation des inégalités, la santé mentale des enfants et la nécessité de relancer l'économie. La correspondance londonienne de Jean Jaffré.
Les syndicats avaient demandé que les enseignants soient inclus dans les catégories prioritaires du programme de vaccination. Mais le comité scientifique qui conseille le gouvernement a estimé que le meilleur critère d'évaluation des risques graves de la Covid-19 est l'âge. À la différence de la précédente rentrée, les établissements et les parents pourront tester les enfants 2 fois par semaine. Problème, les tests antigéniques utilisés ont une marge d'erreur de 30%. Par ailleurs, beaucoup de bâtiments scolaires sont vétustes et mal adaptés pour la mise en place de mesures de précaution comme la circulation des élèves et la ventilation des classes. Gavin Williamson, l'un des ministres d'éducation les plus impopulaires, va débloquer 1,7 milliard de livres pour organiser un rattrapage scolaire. Il propose de rallonger la durée horaire des classes et de réduire les vacances d'été. Les syndicats d'enseignants y sont opposés, tandis que des pédiatres doutent de l'efficacité d'une telle mesure et mettent l'accent sur l'épanouissement des enfants après des mois passés devant la télévision sans contact avec leur père. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Et parmi les conséquences sur le long terme de la pandémie, le mariage de 10 millions d'enfants d'ici 2030, c'est ce que craint l'UNICEF. En cause, les fermetures d'écoles, justement, la crise économique et le décès éventuel de leurs parents, autant de facteurs liés au Covid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est Xavier Sartre que vous retrouverez ce soir aux manettes de l'édition de 18h. Moi, je vous retrouve demain à 8h30. Belle journée à tous.